Chapitre 7. Ellen White, approche de l'écriture à la lumière des langues bibliques. Richard M. Davidson. La position que je partage dans cet essai concernant les écrits d'Ellen White est une approche que je n'ai pas eu l'occasion de développer dans les études que j'ai publiées au sujet de ses ouvrages. Cet essai est d'ailleurs plus un témoignage personnel qu'une présentation formelle. Aucune des illustrations qui suivent ne se trouve dans les ouvrages abordant la question du ministère d'Ellen White. Mon approche est celle d'un théologien de l'Ancien Testament, qui est ma spécialité. Depuis que je suis professeur à l'université d'Andrews, j'ai eu de nombreuses occasions de travailler sur les interprétations d'Ellen White, alors que je cherchais à comprendre le sens des passages bibliques en hébreu, araméen et grec. J'ai souvent été surpris de découvrir que des nuances des textes bibliques que je ne percevais pas malgré ma connaissance des langues d'origine, et qui n'apparaissaient pas dans les traductions modernes, étaient mentionnées dans les commentaires d'Ellen White. Inversement, à ma grande surprise, j'ai souvent constaté que les explications d'Ellen White au sujet de certains textes, qui selon moi n'étaient pas mentionnés dans les Écritures, étaient en réalité fondées sur une lecture minutieuse des textes bibliques dans leur langue d'origine. Cela m'a rappelé certaines déclarations d'Ellen White sur le fait que, puisque nous accordons peu d'attention à la Bible, ses écrits sont pour nous une petite lumière suscitée par Dieu pour nous mener vers la grande lumière, à savoir l'Écriture. Avant de proposer certains exemples spécifiques, voici quelques remarques préliminaires. Tout d'abord, mon intention dans cet essai n'est pas de dire que, si on étudie les écrits d'Ellen White, il n'est pas nécessaire d'étudier la Bible. En fait, je pense le contraire. Dans cette étude, je m'efforce de montrer que le don divin de l'inspiration prophétique est manifeste dans ses écrits parce que son approche des textes bibliques semble dépasser ses propres capacités humaines, étant donné, parmi d'autres raisons, sa méconnaissance des langues bibliques d'origine. Cependant, ces écrits et d'autres écrits inspirés devraient nous encourager à nous tourner vers l'Écriture afin de voir si ces positions sont soutenues par l'exégèse biblique et à partager ensuite les vérités spécifiques au mouvement adventiste, notamment avec ceux qui ne partagent pas notre foi, en nous basant sur l'Écriture seule et non ses écrits. Deuxièmement, Ellen White n'a probablement pas pleinement compris le sens de ces textes et d'autres encore. Les trésors qu'elle a trouvés dans la Bible devraient nous encourager à la sonder nous-mêmes en utilisant tous les outils qui sont à notre disposition pour découvrir les richesses qu'elle contient. Troisièmement, Ellen White emploie souvent la phraséologie biblique dans ses écrits et il apparaît clairement d'après le contexte qu'elle ne cherche pas à donner des explications exégétiques concernant certains passages donnés. Nous employons souvent des expressions tirées de la Bible dans notre langage courant, et ce n'est pas pour autant que nous faisons l'exégèse de ces versets qui sont devenus des expressions idiomatiques. Quatrièmement, dans cet essai, je ne dis pas qu'il faut connaître le grec et l'hébreu pour avoir une solide connaissance de la Bible ou des écrits d'Ellen White. Le message principal de la Bible est accessible dans toutes les langues dans lesquelles elle est traduite, quelle que soit la version que l'on lise. Mais le fait de connaître les langues originales est utile pour ceux qui se spécialisent dans l'étude de la Bible, qui veulent approfondir le sens des passages bibliques et en découvrir toute la richesse et la beauté. Cinquièmement, je ne défends pas la théorie de l'inspiration verbale, que ce soit pour les auteurs bibliques ou pour Ellen White. La Bible, ainsi qu'Ellen White, affirme clairement que Dieu inspira les pensées des prophètes et qu'il ne leur dicta pas ses messages. Cela étant dit, les auteurs bibliques, tout comme Ellen White, mettent l'accent sur leur lien de dépendance avec le Saint-Esprit dans le processus de réception et de transmission des messages divins, Dieu les guidant parfois pour les aider à choisir les mots appropriés permettant d'exprimer la vérité. Le Saint-Esprit fit connaître aux êtres humains la vérité divine en inspirant leurs pensées, et il les aida dans le processus d'écriture afin qu'ils puissent choisir les mots adéquats pour exprimer ce qui leur avait été révélé. Enfin, je ne prétends pas avoir résolu tous les problèmes relatifs aux allusions d'Ellen White aux textes bibliques et dans des domaines dans lesquels Ellen White présente des explications que je n'ai pas pu vérifier par une exégèse biblique détaillée. Dans certains cas, il est possible qu'Ellen White ait vu en vision des détails de l'histoire biblique qui ne sont pas mentionnés dans le récit biblique. Dans d'autres cas, des contradictions ont été relevées par des spécialistes entre la description que fait Ellen White de certains événements historiques et le récit biblique de ces événements. La liste de ces contradictions apparentes était longue, mais elle s'est réduite grâce à des études approfondies. Je garde dans un coin de mon esprit la liste des problèmes qui n'ont pas été résolus et j'attends qu'une lumière nouvelle nous soit accordée. Pour certains de ces problèmes, je crois que je vais devoir attendre le retour du Christ afin qu'il me les explique lui-même. Mais des dizaines de fois, oui, des dizaines de fois, j'ai découvert la vérité grâce à la petite lumière, et j'ai compris plus tard, en l'étudiant, qu'elle faisait partie de la plus grande lumière qui soit. À d'autres reprises, j'ai découvert de riches trésors dans les Écritures grâce à l'étude de ces passages dans leur langue d'origine, et j'ai compris plus tard qu'Ellen White avait pleinement saisi leur sens, alors qu'elle ne connaissait pas les langues d'origine ni les sources secondaires présentant ces explications. J'ai alors éprouvé une grande joie, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24, verset 32, car les Écritures ont pris tout leur sens, et le don de prophétie d'Ellen White m'a semblé être confirmé. Dans cette étude, je partagerai certaines de ces expériences, notamment concernant l'Ancien Testament. Genèse 1, versets 26, 27. Imago Dei. Le récit de la création d'Adam et Ève à l'image de Dieu se trouve au tout début de la Bible. Genèse 1, versets 26, 27. Dans le commentaire d'Ellen White sur ce récit, nous lisons ceci. L'homme devait porter l'image de Dieu, aussi bien physiquement que par son caractère. L'expression « imago Dei », l'image de Dieu, a été beaucoup débattue. Voici ce que dit le texte biblique. « Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance. » Dans mon étude du texte hébreu de Genèse 1, versets 26-27, j'ai découvert que les mots traduits par « image » Tselem et ressemblance, démut, mettaient chacun l'accent sur un aspect différent, même si leur sens peut sembler similaire. Une étude approfondie de ces deux termes dans les Écritures révèle que Tselem, image, évoque une forme externe et concrète, alors que démut met l'accent sur les qualités intérieures et abstraites. Quand ces deux termes sont associés, comme c'est le cas dans Genèse 1, versets 26-27, ils évoquent à la fois une forme extérieure et des caractéristiques intérieures. Ellen White ne connaissait pas l'hébreu, et pourtant, elle avait raison lorsqu'elle écrivit que l'homme devait porter l'image de Dieu aussi bien physiquement que par son caractère. Cette remarque est particulièrement intéressante, car au XIXe siècle, les théologiens s'accordaient à considérer Dieu selon la perspective grecque du dualisme, à savoir hors du temps et de l'espace, sans forme extérieure. Ainsi, il rejetait toute interprétation d'imago Dei évoquant une ressemblance extérieure. Genèse 2, verset 25, des vêtements de lumière et de gloire. Ellen White déclare que, à la création, Adam et Ève étaient vêtus de vêtements de lumière et de gloire. Ce détail se trouve-t-il uniquement dans les écrits d'Ellen White ou est-il implicite dans les Écritures ? Dans Genèse 2, verset 25, Moïse décrit Adam et Ève lors de la création et affirme qu'ils étaient nus. Le mot traduit par « nu » est « arom », qui, dans d'autres passages, fait référence à une personne qui n'est pas complètement habillée ou qui n'est pas habillée de manière normale. Le texte de Genèse 2, verset 25, ne précise pas exactement dans quelle mesure Adam et Ève étaient nus et ce que signifie le fait qu'ils n'étaient pas habillés de manière normale, dans le sens du mot « après la chute ». Cependant, un autre récit majeur de la création nous donne des détails complémentaires, le psaume 104. Ce psaume évoque les sept jours de la création exactement dans le même ordre que Genèse 1, mais il nous donne des indications supplémentaires qui ne sont pas évoquées dans Genèse 1. Ce psaume propose une description poétique de l'œuvre créatrice de Dieu et donne au moins une indication sur son apparence, ou plutôt son vêtement. Notez les versets 1 et 2 qui font écho à la création de la lumière dans Genèse 1. « Que je bénisse le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu es très grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il déploie le ciel comme une toile. » Si Dieu est décrit comme étant vêtu de lumière et de gloire, ou magnificence, à la création, nous pouvons raisonnablement en déduire que les premiers êtres humains, qui furent créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, à la fois dans leur caractère et dans leur apparence, étaient vêtus de la même manière. Ils n'étaient pas habillés de manière normale, selon la compréhension postérieure au péché, mais ils étaient vêtus comme celui dont ils étaient l'image. La description d'Ellen White de la façon dont Adam et Ève étaient vêtus avant la chute peut donc être déduite logiquement à partir du texte biblique seul quand on étudie la terminologie relative à la nudité et au lien intertextuel entre le récit de la création de la Genèse et le psaume 104. La nudité de l'âme. Genèse 2 et Genèse 3 emploient deux mots hébreux différents pour traduire l'idée de nudité. Comme nous venons de le voir, le mot traduit par « nu » dans Genèse 2, verset 25, signifie « qui n'est pas habillé de manière normale » et implique, à la lumière de Imago Dei et du texte de Psaume 104, verset 1-2, qu'Adam et Ève étaient vêtus de lumière et de gloire, comme Dieu. En revanche, dans Genèse 3, verset 7, 10, 11, le mot hébreu est « érom », qui, dans d'autres passages des Écritures, évoque l'idée d'un dévoilement total et décrit une personne totalement nue. En raison de leur péché, l'homme et la femme se retrouvèrent totalement nus, privés de leurs vêtements de lumière et de gloire, cherchant à se couvrir avec des feuilles de figuier. La nudité d'Adam et Ève, décrite dans la Genèse, est manifestement plus qu'une nudité physique, car Adam précise qu'il était toujours nu quand Dieu approcha, alors qu'il était déjà couvert de feuilles de figuier, Genèse 3, verset 10. Ainsi, la nudité de Genèse 3 impliquait non seulement qu'Adam et Ève ne portaient plus leurs vêtements de lumière et de gloire, mais également qu'ils étaient démasqués, qu'ils avaient conscience de leur culpabilité, de la nudité de leur âme. C'est exactement la façon dont Ellen White décrit la nudité d'Adam et Ève. Son péché consommé, il, Adam, a tout d'abord l'impression d'entrer dans une sphère plus élevée. Bientôt, cependant, la pensée de sa faute le remplit de terreur. L'atmosphère, qui avait toujours été douce et uniforme, paraît glaciale au couple désobéissant. Le sentiment d'amour et de paix qu'ils éprouvaient disparaît, remplacé par la conscience de leur péché, la crainte de l'avenir, la nudité de leur âme. Leur vêtement lumineux disparaît. Ils essaient de se couvrir comme ils le peuvent, car ils n'osent pas se présenter devant Dieu et les saints anges sans vêtements. Une fois encore, les explications d'Ellen White sont en harmonie avec le texte biblique quand il est lu à la lumière de l'original en hébreu. Genèse 4, verset 1. L'attente d'Adam et Ève au sujet de Caïn serait-il le Messie ? On trouve un autre exemple de la corrélation entre l'écriture dans sa langue d'origine et les explications d'Ellen White dans son commentaire sur la pensée d'Adam et Ève à la naissance de leur fils Caïn. Ellen White écrit « La venue du Sauveur avait été annoncée en Éden. Quand Adam et Ève eurent entendu la promesse, ils s'attendirent à un prompt accomplissement. Leur premier-né fut reçu avec joie, dans l'espoir qu'il serait le libérateur. Mais l'accomplissement fut différé. L'Écriture confirme-t-elle qu'Adam et Ève eurent cette pensée ? Il y a quelques années, je lisais le texte de Genèse 4 dans ma Bible en hébreu et je prêtais attention à un détail du verset 1 qui m'avait échappé auparavant. L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit « J'ai mis au monde un homme » et la plupart des versions précisent « avec l'aide de l'Éternel » version Colombe. Mais comme l'indiquent certaines versions en mettant ces derniers mots en italique, l'expression « avec l'aide de » n'est pas présente dans l'original en hébreu. Dans le verset en hébreu, aussitôt après le mot « homme »,« enfant »,« ish » en hébreu, vient la particule « et » qui peut signifier « avec » ou indiquer que le mot suivant est l'objet direct de la phrase. La traduction « avec le Seigneur » n'a pas réellement de sens étant donné le contexte. Il faut ajouter « avec l'aide de » comme le font de nombreuses traductions modernes. Mais une étude approfondie d'autres passages de la Bible, utilisant cette particule pour dire « avec », montre que nulle part cette particule ne peut être traduite par « avec l'aide de ». Ainsi, cet ajout ne semble pas pertinent. L'alternative est donc de considérer que la particule « et » indique qu'il s'agit d'un objet direct, ce qui peut s'exprimer par un tiré en français. La traduction serait donc « J'ai mis au monde un homme, le Seigneur ». Cette traduction a du sens, et on retrouve cette structure grammaticale dans d'autres passages. J'en conclus donc que c'est la meilleure traduction possible de ce verset. Des théologiens comme Walter Kaiser ont sérieusement analysé ce passage et en sont arrivés à la même conclusion. Ce texte implique donc que, lorsqu'Adam et Ève nommèrent Caïn, ils pensaient qu'il serait le Messie promis, Yahvé lui-même. Ils pensaient que le Messie était venu, mais ils comprirent ensuite que Caïn n'était pas le Messie, mais un meurtrier. Sous l'effet de l'inspiration, Ellen White proposa une explication conforme au texte biblique, comme le montre le texte en hébreu. Genèse 4, verset 7. Le récit concernant Caïn et Abel. Prenons un autre exemple tiré de la Genèse, nous montrant que l'interprétation d'Ellen White correspond tout à fait au texte hébreu, ce que beaucoup de gens ignorent. Dans Genèse 4, nous trouvons le récit bien connu de Caïn et Abel. Caïn et Abel apportèrent chacun une offrande pour le Seigneur, et le fruit de la terre de Caïn fut rejeté, alors que le bétail d'Abel fut accepté. Après cela, Caïn se renfrogna. Verset 5. Le Seigneur vint à lui et lui dit, au verset 7, généralement traduit ainsi, « Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête ? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, et son désir, teshuka en hébreu, se porte vers toi. » À toi de le dominer, Machal en hébreu. Cette traduction décrit une situation sombre dans laquelle le péché est comparé à un démon ou à une bête sauvage, cherchant à dominer Caïn et que celui-ci est invité à dominer. La structure grammaticale de ce verset étant presque similaire à celle de Genèse 3, verset 16, car nous y trouvons les mêmes mots pour désir et dominer, ainsi que les mêmes pronoms, ce deuxième passage est également interprété de façon négative. La femme désire dominer l'homme, mais c'est l'homme qui doit la dominer. Une étude minutieuse du texte de Genèse 4, verset 7, basée sur une lecture attentive du texte hébreu, menée par l'un de mes étudiants en doctorat, a remis en question cette interprétation négative. Je me suis moi-même appuyé sur ces recherches et, après avoir étudié les différentes implications du texte hébreu, je suis arrivé aux mêmes conclusions. Je ne mentionne ici que les points principaux de nos recherches. Tout d'abord, le péché n'est pas décrit comme un démon ou un animal sauvage poursuivant sa proie dans d'autres passages de l'Écriture. Il n'est pas non plus question pour les êtres humains de le dominer. Cette description ne semble pas cohérente avec la théologie du péché dans le reste de l'Écriture. Deuxièmement, l'adjectif possessif « son » dans l'expression « son désir » est au masculin dans ce verset, et d'après une règle grammaticale en hébreu, l'adjectif possessif s'accorde avec le possesseur. Ainsi, le nom dont il est question devrait être masculin. Or, en hébreu, le mot « péché » est féminin. L'antécédent le plus proche est donc le nom « Abel », verset 4. Troisièmement, Abel est le seul à pouvoir être concerné dans ce récit dans lequel il est question de honte et d'honneur. Abel est manifestement l'objet de la colère et du déplaisir de Caïn. D'après le contexte, ce déplaisir est dû au fait qu'il est certainement perdu, ou qu'il risquait de perdre, son statut de premier-né en ne se conformant pas au rite prescrit. Caïn fut très fâché, et son visage se renfrogna. On pourrait aussi dire qu'il perdit la face. Dieu lui promit alors que, s'il agissait bien, tout rentrerait dans l'ordre. Autrement dit, son honneur serait restauré. La terminologie du texte hébreu confirme cela. Ainsi, la traduction de Genèse 4, verset 7, devient positive. « Son désir, celui d'Abel, se porte vers toi, à toi, Caïn, de le dominer. » Dieu promet à Caïn que, s'il agit bien, le désir ou le respect d'Abel pour Caïn sera restauré et il conservera son statut d'aîné. Cette traduction est confirmée par la traduction en grec de l'Ancien Testament, la Septante. « Le péché est sous ta puissance et c'est à toi de le dominer. » À ma connaissance, aucune traduction moderne de l'époque d'Ellen White, ou même aujourd'hui, ne suit la Septante et ne propose une traduction positive conforme à l'original en hébreu. Cependant, Ellen White adopte cette traduction dans plusieurs de ses déclarations au sujet de Genèse 4, verset 7. Elle considère manifestement que ce passage, le verset 7b, fait référence à Caïn et Abel dans le contexte de la restauration du statut de premier-né et de ses prérogatives sur Abel. Notez sa citation de Genèse 4, verset 7b dans ce passage. « L'offrande d'Abel fut acceptée, mais c'est parce qu'il avait fait tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Si Caïn acceptait de corriger son erreur, il ne serait pas privé de son droit d'aînesse. Non seulement Abel l'aimerait comme son frère, mais étant le plus jeune, il lui serait soumis. Ainsi, le Seigneur déclara à Caïn : Le péché est tapi à ta porte, et son désir se porte vers toi, à toi de le dominer. Ellen White cite ou paraphrase le texte de Genèse 4, verset 7b, à trois autres reprises, en donnant cette même interprétation. L'offrande d'Abel fut acceptée, mais c'est parce qu'il avait fait tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Si Caïn acceptait de corriger son erreur, il ne serait pas privé de son droit d'aînesse. Non seulement Abel l'aimerait comme son frère, mais étant le plus jeune, il lui serait soumis. Ainsi, le Seigneur déclara à Caïn : Le péché est tapis à ta porte, et son désir se porte vers toi, à toi de le dominer. L'ange dit à Caïn que ce n'était pas une injustice de la part de Dieu de partialité vis-à-vis d'Abel. Il ne pouvait pas respecter son offrande en raison de son péché et de sa désobéissance à sa demande très claire. S'il agissait bien, il serait accepté par Dieu et son frère l'écouterait. Il prendrait les commandes parce qu'il était l'aîné. Il n'y avait pas eu d'injustice de la part de Dieu et pas de partialité vis-à-vis d'Abel. S'il agissait bien, il serait accepté par Dieu et son frère l'écouterait. Il prendrait les commandes parce qu'il était l'aîné. Il est donc tout à fait intéressant de noter qu'Ellen White suit l'interprétation de la Septante, qui n'était pourtant pas adoptée par les traductions de son époque. De plus, elle alla à l'encontre de l'approche de son temps, selon laquelle il existait un parallèle avec Genèse 3, verset 16, interprétant ce texte comme une bénédiction permettant de préserver l'unité et l'harmonie du foyer. Exode 20, le Décalogue. Les 10 commandements d'Exode 20 sont un autre exemple de la conformité entre l'interprétation d'Ellen White et le texte hébreu. Elle fait un commentaire très fort au sujet de ce texte. Les 10 commandements sont 10 promesses. Il n'y a rien de négatif dans la loi, même si on peut en avoir l'impression. Quand on lit les 10 commandements, ils semblent être très négatifs. 8 de ces commandements débutent par les mots « tu ne ». Comment Ellen White peut-elle affirmer qu'il n'y a rien de négatif dans le décalogue ? J'avais toujours compris cette déclaration dans le sens « il nous rend capable de faire ce qu'il nous demande de faire ». Mais je crois désormais qu'il y a une autre explication, plus claire, plus satisfaisante et plus biblique. J'ai étudié le texte hébreu du décalogue à la lumière des déclarations d'Ellen White, m'intéressant aux formes grammaticales utilisées dans chacun des commandements. À ma grande surprise, j'ai découvert que les 8 commandements débutant par « tu ne » peuvent être traduits soit par une forme négative, interdiction, soit par une forme emphatique, selon les règles grammaticales de l'hébreu. Nous pourrions traduire ces commandements ainsi. « Je te promets que tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de statue. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, pour tromper. » Je te promets que tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Même le 4e et le 5e commandement, qui ne sont pas formulés de façon négative, souviens-toi du sabbat, honore ton père et ta mère, ne sont pas à l'impératif, ce qui est la façon normale de faire une recommandation positive en hébreu. Ils emploient un infinitif absolu, ce qui, en hébreu, indique souvent une promesse forte. En fait, Dieu dit « Je te promets que tu te souviendras du sabbat, tu honoreras ton père et ta mère. » Ainsi, tous les commandements peuvent être traduits comme des promesses. Je pense que l'interprétation d'Ellen White est confirmée par le sens du prologue de ces 10 commandements. En réalité, notre perception du décalogue dépend du verset où l'on fait débuter ce texte. Quand j'étais enfant, on m'avait appris que les 10 commandements débutaient au verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Pourtant, ce n'est pas ainsi que le texte débute. Ce n'est pas à ce moment-là que Dieu commence à parler. Le décalogue débute au verset 2, quand Yahvé déclare « Je suis le Seigneur, YHWH, ton Dieu ». C'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Dieu dit en effet, je t'ai sauvé par le sang de l'agneau, tu es déjà sauvé, et désormais je te promets de t'accorder la puissance dont tu as besoin pour observer ma loi. Si on débute au verset 2, les commandements deviennent donc des promesses. Je te promets que tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Je te promets que tu ne te feras pas de statue et que tu n'invoqueras pas mon nom pour tromper. Je te promets que tu te souviendras du sabbat et que tu honoreras ton père et ta mère. » Il n'y a rien de négatif dans la loi. Ellen White ne connaissait pas la grammaire de l'hébreu, mais grâce à l'inspiration prophétique, elle proposa une interprétation de la parole qui est confirmée par l'étude des textes dans leur langue d'origine. Exode 25, versets 9, 40. Le modèle du sanctuaire terrestre. J'ai consacré environ 2 années de ma vie à rédiger ma thèse sur le sujet de la typologie. Dans le cadre de ce travail, j'ai étudié les différents mots en hébreu et en grec dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui sont traduits par « type » ou « modèle ». Dans l'Ancien Testament, je me suis concentré sur le texte d'Exode 25, versets 9, 40, où Dieu demanda à Moïse de se conformer au modèle, tabnit en hébreu, qu'il avait vu sur la montagne. J'ai étudié en détail le mot hébreu tabnit, qui est traduit par typos ou type dans la Septante, et j'ai cherché de quelle autre façon il était utilisé dans la Bible hébraïque. Après 6 mois de recherches intensives sur le sens de ce terme, j'en suis arrivé à la conclusion que l'emploi du mot tabnit dans Exode 25, versets 9-40, implique l'existence d'un modèle miniature conforme à un original. Ainsi, Moïse a vu sur la montagne un modèle miniature du sanctuaire original qu'il avait vu au ciel. J'ai argumenté cette affirmation dans ma thèse, qui est désormais publiée. Peu de temps après, l'un des professeurs qui m'avait conseillé dans mon travail me demanda de présenter les résultats de ma recherche lors d'une conférence universitaire de la Society of Biblical Literature, Société de littérature biblique. Avec une grande joie mêlée d'une certaine crainte, je présentais donc mes conclusions à un groupe d'intellectuels dont la plupart ne croyaient pas à la réalité du sanctuaire céleste ou à la véracité de l'écriture. Un temps fut consacré aux questions après ma présentation, et quasiment presque toutes les personnes présentes voulurent prendre la parole. Je pensais être soumis au feu des critiques et je n'avais qu'une envie, m'échapper au plus vite. Je priais, puis je commençais à prendre les questions. À ma grande surprise, ainsi que celle du modérateur de la rencontre, toutes les personnes qui firent un commentaire non seulement approuvèrent mes propos, mais elles présentèrent d'autres éléments allant dans le sens de mes conclusions. Peu de temps après cette rencontre, en lisant l'un des premiers livres d'Ellen White, Spiritual Gifts, je découvris cette phrase surprenante. Dieu présenta à Moïse un modèle miniature du sanctuaire terrestre et il lui demanda de faire toute chose selon le modèle qui lui avait été montré sur la montagne. Je me demandais alors comment Ellen White pouvait comprendre le mot tabni dans le sens de « modèle miniature » sans connaître l'hébreu et sans disposer de traduction moderne ou de commentaires proposant cette traduction. Cette expérience confirme donc la validité de mon interprétation du mot tabni, la pertinence de l'approche typologique de la doctrine du sanctuaire et la réalité du don de prophétie d'Ellen White. Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, la chute de Satan et l'irruption du mal dans l'univers. J'écrivis mon premier article théologique alors que j'étais étudiant, et je décidai alors de m'intéresser aux textes d'Ésaïe 14 et d'Ézéchiel 28, des passages que les adventistes du septième jour considèrent généralement comme faisant référence à Satan et à l'origine du mal dans le ciel. Mais comme plusieurs commentateurs, j'en arrivais à la conclusion troublante que ces deux textes ne faisaient référence ni à Satan ni à l'origine du mal, étant donné leur contexte. Par conséquent, dans mon esprit, les arguments bibliques utilisés par les adventistes pour expliquer l'origine du grand conflit n'étaient pas valables. Et dans la mesure où Ellen White allait aussi dans ce sens, je me mis inconsciemment à avoir des doutes sur la véracité de son interprétation de l'écriture. Mais, à ma grande joie, j'ai trouvé depuis des éléments exégétiques majeurs montrant qu'Ésaïe et Ézéchiel faisaient bien référence à Satan dans ces passages. Dans sa thèse de doctorat, dont le thème est « The Son of the Morning and the Guardian Cherub in the Context of the Controversy Between Good and Evil », le fils du matin et le chérubin dans le contexte du conflit entre le bien et le mal, José Bertolucci réfute l'idée que les textes d'Ésaïe 14 et d'Ézéchiel 28 décrivent uniquement les ennemis terrestres et historiques d'Israël et non Satan. Il montre que, dans ces passages, il y a un mouvement allant du royaume historique et local des souverains terrestres vers un royaume surnaturel décrivant Lucifer slash Satan et les débuts du grand conflit. Dans ma propre étude, je cite d'autres éléments allant dans le sens de ce changement de concept dans Ézéchiel 28. Du prince terrestre, Nadjid, le roi de Tyr, versets 1 à 10, au roi cosmique, Melech, le dirigeant surnaturel de Tyr, Satan lui-même, versets 11 à 19. Et j'ai découvert que le jugement porté contre le chérubin déchu se trouve au cœur même de tout le livre. L'origine de Lucifer, telle qu'elle est présentée par Ellen White, est donc solidement ancrée dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Son interprétation de ces passages est pertinente. Cependant, jusque très récemment, l'un des aspects de l'origine du grand conflit que les adventistes connaissent bien grâce aux écrits d'Ellen White était resté sans fondement biblique. Dans Patriarches et Prophètes, ainsi que dans Le Grand Espoir, environ 17 pages décrivent de quelle façon Satan, avant son expulsion du ciel, s'adressa aux anges pour critiquer le caractère et la souveraineté de Dieu. Cette scène importante du récit du grand conflit peut simplement être déduite de déclarations bibliques à propos de Satan telles que « Lui, il était homicide dès le commencement. Il est à la fois le menteur et son père. » Jean 8, verset 44. Et « Car il a été jeté à bas, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Apocalypse 12, verset 10. Mais y a-t-il une explication biblique plus précise concernant l'activité insidieuse de Satan au ciel avant même la création du monde, telle que la décrit Ellen White? Un jour, je lus les propos d'un théologien qui affirmait que, pour l'essentiel, la description de Satan proposée dans Ézéchiel 28 était uniquement symbolique et non littérale, puisqu'il était question de l'importance de son commerce, verset 16, alors que manifestement Lucifer n'était pas un commerçant au sens littéral du terme.
Je décidai alors d'étudier le mot hébreu traduit par « commerce », et je fis alors une découverte passionnante. Le verbe « rakal », dont ce nom dérive, signifie littéralement « se déplacer », »,« aller de l'un à l'autre », pour faire du commerce ou échanger des propos négatifs. Le nom dérivé « rakil » signifie « calomniateur », celui qui relate des propos négatifs, et il apparaît 6 fois dans l'Ancien Testament, dont une fois dans Ézéchiel 22, verset 9. L'autre nom dérivé, Rekoula, qui est traduit par commerce dans Ézéchiel 28, verset 16, apparaît uniquement dans le livre d'Ézéchiel, et les 4 occurrences de ce mot ont un lien avec Tyr, 26, verset 12, 28, verset 5, 16, 18. La plupart des versions modernes traduisent ce mot par trafic, commerce ou marchandise. Mais ce mot ne se trouvant que dans cette partie de la Bible, le contexte doit permettre de déterminer son sens. Les mots « trafic » et « commerce » correspondent tout à fait au contexte de la ville marchande de Tyr, Ézéchiel 26, verset 12, 28, verset 5. Cependant, il ne semble pas correspondre au contexte de la description du chérubin protecteur d'Ézéchiel 28, verset 16. L'exégète Walter Eichrott le reconnaît. Voici ce qu'il déclare au sujet de ce passage. Cette description est assez inattendue, puisque le commerce dont il est question ici est représenté étant à l'origine de l'iniquité. Ce nom étant dérivé d'un verbe signifiant « se déplacer », « aller de l'un à l'autre » pour faire du commerce ou échanger des propos négatifs, il est très probable qu'Ézéchiel ait choisi délibérément ce terme hébreu « rare » au lieu du mot plus courant « sakar » parce qu'il a potentiellement un double sens. Ézéchiel semble utiliser ici un procédé littéraire appelé paranomase, autrement dit un jeu de mots sur le sens d'un terme. Les habitants de la ville marchande historique de Tyr, mentionnés dans la première partie du chapitre, se déplaçaient et allaient de l'un à l'autre pour faire du commerce avec d'autres pays. De la même façon, l'autre dirigeant de Tyr, Satan, versets 11 à 19, se déplaçait et allait et venait,
sur la montagne de Dieu, non pour faire du commerce, mais pour proférer des propos négatifs adressés aux anges. En fait, ces deux dirigeants, le dirigeant terrestre et le dirigeant surnaturel, étaient littéralement engagés dans un trafic, le premier pour des marchandises et l'autre pour critiquer Dieu. Le contexte immédiat du texte d'Ézéchiel 28, verset 16, évoque la chute du chérubin protecteur qui passa de la perfection, verset 15, à l'orgueil, verset 17. Les versets 16 et 18 décrivent sa perdition. Le verset 16 pourrait être traduit ainsi « Par l'importance de ton commerce, Rekulla, tu, Satan, as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu. » Ézéchiel décrit de façon adroite Lucifer en train de calomnier Dieu, ce qui se termine par une rébellion ouverte et violente. Le verset 18 révèle qu'après son expulsion du ciel, le chérubin continua à agir ainsi, et le verset précise que Satan sera détruit en raison de la multitude de ses fautes. Une étude plus approfondie de la nature de l'activité de Satan dans le texte hébreu corrobore les déclarations d'Ellen White sur le fait que Lucifer accusait Dieu d'être injuste aussi bien dans le domaine de la loi que dans la façon dont il le traitait. Ellen White déclare ceci « L'élévation du Fils à l'égal du Père est donc une injustice à l'égard de Lucifer, qui a les mêmes droits à être révéré et honoré. En réalité, aucun changement ne s'était produit quant à la position et à l'autorité du Fils de Dieu. Ses prérogatives n'avaient jamais varié. Elles avaient seulement dû être réaffirmées en raison des prétentions et des insinuations séditieuses de Lucifer, insinuations qui avaient réussi à aveugler un grand nombre d'anges. D'après le texte d'Ézéchiel 28, verset 15, le chérubin protecteur était intègre dans toutes ses voies, jusqu'à ce que l'injustice, Aoula, soit trouvée en lui. De nombreuses versions traduisent ce mot par « iniquité », mais la première définition de ce mot est « injustice ». Le lexique hébreu précise même qu'il s'agit de « violents actes d'injustice », d'injustice dans les paroles et d'injustice en général. Je pense que l'emploi de ce mot spécifique pour évoquer l'idée d'injustice, plutôt que l'emploi de termes plus génériques que l'on pourrait traduire par « iniquité » ou « péché », peut impliquer que l'ange protecteur avait un sentiment d'injustice concernant Dieu, sa façon d'agir avec lui et son refus de le considérer comme un égal. Le récit des calomnies de Satan contre la justice de Dieu au cours du grand conflit n'est pas uniquement une version adventiste d'une histoire tirée des écrits inspirés d'Ellen White. C'est la vérité biblique. Une fois de plus, la petite lumière nous a menés à la grande lumière. Conclusion. Je n'ai pas fait de recherche exhaustive dans les écrits d'Ellen White, ce que j'espère faire dans un avenir proche, afin de déterminer combien des interprétations que j'ai évoquées ci-dessus se trouvent dans des livres auxquels elle avait accès. En fait, lors de mes recherches relativement limitées, je n'ai trouvé aucun ouvrage théologique du XIXe siècle et aucune traduction de la Bible évoquant les conclusions que je viens de résumer. Cependant, même s'il apparaissait que certaines de ces idées étaient déjà évoquées dans certains ouvrages, cela ne changerait pas ma position. Il faudrait encore expliquer comment Ellen White fut poussée à choisir ses interprétations en particulier et à mettre de côté les positions les plus courantes de son temps qui furent réfutées plus tard par une exégèse approfondie. Cette étude ne présente que quelques exemples montrant qu'Ellen White sut saisir les nuances de passages bibliques qui n'apparaissent que dans les textes hébreux et grecs, et quelques exemples dans lesquels elle donne des précisions au sujet de récits bibliques qui semblent venir d'elle et non pas de ses passages. Alors qu'en réalité, nous savons désormais que ces précisions sont bien présentes dans les textes originaux. Nous pourrions dire la même chose au sujet de certains détails historiques et géographiques contenus dans les descriptions faites par Ellen White de lieux où se sont déroulés les événements bibliques qu'elle avait découverts lors de ses visions et qui ont été confirmés par des recherches récentes menées par des géographes et des archéologues. Au cours des derniers mois, j'ai partagé certains des points que je présente dans ce chapitre à mes collègues du département d'Ancien Testament du séminaire adventiste d'Andrews University, et j'ai été heureux d'apprendre qu'ils en étaient arrivés à la même conclusion en comparant les interprétations d'Ellen White et leurs propres recherches dans les textes originaux. Ils peuvent également citer de nombreux exemples d'interprétations d'Ellen White qui ont été confirmés par une étude approfondie des textes dans leur langue originale. De plus, j'ai été rassuré,
car mes collègues cherchent aussi des réponses à certaines questions non résolues et se disent qu'il leur faudra peut-être attendre que le maître lui-même les leur explique quand il reviendra. J'attends avec impatience ce jour où Dieu, qui a inspiré les auteurs bibliques et Ellen White, rendra toutes choses limpides à nos yeux.